Isn't it fascinating how
n'est-il pas fascinant de voir que les découvertes scientifiques importantes sont parfois inspirées d'événements aussi simples qu'une pomme tombant d'un arbre? Aujourd'hui, je voudrais parler d'une découverte scientifique faite grâce à un petit groupe de lapins. Dans les années 1970, des chercheurs ont mené une expérience pour examiner les effets de l'alimentation sur la santé cardiaque. Pendant plusieurs mois, ils ont nourri un groupe témoin de lapins avec de la nourriture riche en matières grasses et ont contrôlé leur tension, leur fréquence cardiaque et leur cholestérol. Comme prévu, ils ont remarqué une accumulation de dépôts graisseux dans les artères des lapins. Et pourtant, ce n'était pas tout. Les chercheurs ont découvert quelque chose d'apparemment insensé. Bien que tous les lapins aient accumulé des dépôts graisseux, un groupe en avait près de 60% de moins que les autres. On avait l'impression de regarder deux groupes de lapins différents. De tels résultats empêchent des scientifiques de dormir. Comment était-ce possible? Les lapins étaient de la même race néo-zélandaise et avaient un patrimoine génétique quasiment identique. Ils avaient reçu la même quantité des mêmes aliments. Qu'est-ce que cela signifiait? Les résultats invalidaient-ils l'étude? Y avait-il des erreurs dans la conception de l'expérience? En vain, les scientifiques ont cherché à comprendre ce résultat étrange. Finalement, ils se sont tournés vers l'équipe de recherche. Avait-elle fait quelque chose pour influencer les résultats? En explorant cette hypothèse, ils ont découvert que les lapins ayant moins de dépôts graisseux étaient soignés par la même chercheuse. Elle donnait à ces lapins la même nourriture que les autres. Cependant, un scientifique a rapporté qu'elle était particulièrement gentille et bienveillante. Quand elle nourrissait les lapins, elle leur parlait, les caressait et les câlinait. Elle ne pouvait pas s'en empêcher. C'était dans sa nature. Elle n'avait pas simplement nourri les lapins, elle leur avait donné de l'amour. Au début, il semblait improbable que cela explique cette différence impressionnante, mais l'équipe de recherche ne trouvait pas d'autres raisons. Alors, ils ont répété l'expérience, cette fois en contrôlant minutieusement toutes les autres variables. L'analyse des résultats finaux a démontré la même chose. Les lapins soignés par la chercheuse aimante étaient réellement en meilleure santé. Les scientifiques ont publié les résultats de cette étude dans la prestigieuse revue Science. Des années plus tard, les découvertes faites dans le cadre de cette expérience influencent encore la collectivité médicale. Récemment, Kelly Harding a publié un livre intitulé « The Rabbit Effect, l'effet lapin », dont le nom est inspiré de cette expérience. Voici sa conclusion. Prenez un lapin ayant un mode de vie malsain, parlez-lui, portez-le, donnez-lui de l'affection. La relation fait la différence. En fin de compte, ce qui affecte le plus notre santé repose en grande partie sur la façon dont nous nous traitons mutuellement, dont nous vivons, et sur notre perception de ce que signifie être humain. Dans un monde profane, les ponts reliant la science et les vérités de l'Évangile semblent parfois rares. Pourtant, en tant que chrétiens, disciples de Jésus-Christ, saints des derniers jours, les résultats de cette étude scientifique semblent plus intuitifs que déconcertants. Pour moi, cela ajoute une pierre à la fondation de la gentillesse comme principe de l'Évangile guérisseur et fondamental. Elle soigne les cœurs sur le plan émotionnel, spirituel et même, comme nous l'avons vu, sur le plan physique. Quand on a demandé au Sauveur, « Maître, quel est le plus grand commandement ?» Il a répondu, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La réponse du Sauveur réaffirme notre devoir céleste. Les prophètes d'autrefois nous ont commandé de ne pas avoir de querelle entre nous, mais de regarder vers l'avenir, nos cœurs étant enlacés dans l'unité et l'amour les uns envers les autres. Dans les Écritures, on nous enseigne aussi que le pouvoir et l'influence doivent être exercés par la gentillesse, la douceur, la bonté et sans fausseté. Je crois que ce précepte est universel et s'applique à tous les saints des derniers jours, les adultes, les jeunes et les enfants. Toutefois, nous sommes tous inspirés par les exemples de la génération montante. De ce fait, je vais m'adresser directement à vous, les enfants ayant l'âge d'aller à la primaire. Vous comprenez déjà l'importance d'être gentil. le refrain du chant de la primaire, « Jésus-Christ est mon modèle », enseigne « Aime ton prochain, Jésus t'aime aussi. Et tout ce que tu fais, toujours, sois gentil. Sois bon et aimant en pensée, en action. » Voilà de Jésus les leçons. Parfois, vous trouvez que c'est difficile. Pour vous aider, voici l'histoire d'un garçon de la primaire appelé Min-chan Kim, originaire de Corée du Sud. Il y a 6 ans environ, sa famille est devenue membre de l'Église. Il raconte, je cite, « Un jour à l'école, certains de mes camarades de classe se moquaient d'un autre élève en le traitant de toutes sortes de noms. Cela avait l'air amusant. Alors, au bout de quelques semaines, je l'ai fait avec eux. Plusieurs semaines plus tard, le garçon m'a dit que même s'il faisait semblant d'être indifférent à nos paroles, elles le blessaient et il pleurait tous les soirs. J'ai failli pleurer quand il me l'a dit. J'étais vraiment triste et je voulais l'aider. Le lendemain, je suis allé le voir et ai passé mon bras autour de son épaule. Je lui ai dit, « Je regrette vraiment de m'être moqué de toi. » À mes paroles, il a hoché la tête et ses yeux se sont remplis de larmes. Les autres enfants continuaient de se moquer de lui. Je me suis alors souvenu de ce que j'avais appris dans ma classe de la primaire, « Choisis le bien ». J'ai demandé à mes camarades de classe d'arrêter. La plupart d'entre eux ont refusé et étaient en colère contre moi. Cependant, un des garçons s'est excusé et tous les trois, nous sommes devenus amis. Quelques enfants continuent de se moquer de lui, mais il se sent mieux parce que nous sommes avec lui. J'ai choisi le bien en aidant un ami en difficulté. Fin de citation. N'est-ce pas un bon exemple vous incitant à avoir Jésus comme modèle? Maintenant, chers jeunes gens et jeunes filles, en grandissant, les moqueries évoluent très dangereusement. L'anxiété, la dépression, ou pire encore, accompagnent souvent le harcèlement. Bien que les moqueries ne soient pas nouvelles, les réseaux sociaux et la technologie les ont fait évoluer. Le harcèlement en ligne devient une menace constante, toujours présente. Il est clair que l'adversaire l'utilise pour blesser votre génération. Cette attitude n'a pas sa place dans votre cyberspace, votre voisinage, votre école, votre collège ou classe. S'il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour rendre ces endroits plus agréables et rassurants. Si vous observez passivement ou participez à quelque chose de ce genre, je ne connais pas de meilleur conseil que celui donné par le frère Uchtdorf. Quand il s'agit de haïr, de médire, de faire comme si la personne n'était pas là, de railler et d'entretenir de la rancune ou de vouloir faire du mal, veuillez appliquer ceci. Arrêtez. Avez-vous entendu? Arrêtez. En tendant la main, même numériquement, vers autrui avec gentillesse, sollicitude et compassion, je vous promets que vous relèverez les bras de personnes languissantes et guérirez les cœurs. Je me suis adressé aux enfants de la primaire et aux jeunes. Je vais maintenant parler aux adultes de l'Église. Notre responsabilité principale est de donner le ton et d'être des exemples de bonté, d'intégration et de civilité, d'enseigner continuellement le comportement chrétien à la génération montante par nos paroles et nos actions. C'est particulièrement important tandis que nous observons la société s'orienter clairement vers la division, que ce soit au sein de la politique, des classes sociales ou de presque toutes les autres distinctions créées par l'homme. M. Russell Ballard a enseigné que les saints des derniers jours doivent non seulement être bons les uns envers les autres, mais aussi envers toutes les personnes qui les entourent. Il a déclaré, je cite, « J'entends parfois parler de membres qui sont offensants vis-à-vis des gens n'ayant pas la même foi, en faisant comme s'ils n'existaient pas ou en les excluant. » Cela arrive surtout dans les collectivités où nos membres sont majoritaires. J'ai entendu parler de parents à l'esprit étroit qui disent à leurs enfants de ne pas jouer avec tel ou tel enfant du quartier simplement parce que sa famille n'est pas membre de notre Église. Ce genre de comportement n'est pas en accord avec les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Je ne comprends pas comment un membre de notre Église permet qu'il en soit ainsi. Je suis membre de cette Église depuis toujours. Je n'ai jamais entendu d'exhortation encourageant les membres de cette Église à être autre chose qu'aimant, bon, tolérant et bienveillant envers nos amis et nos voisins d'autres confessions. Fin de citation. Le Seigneur veut que nous enseignions que l'intégration est une bonne manière d'être unis et que l'exclusion mène à la division. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes consternés quand nous entendons parler de la manière dont les enfants de Dieu sont maltraités en raison de leur race. Notre cœur s'est brisé quand nous avons entendu parler des attaques récentes sur des personnes noires, asiatiques, latines ou autres. Les préjugés, les tensions raciales et la violence n'ont pas leur place dans nos quartiers, nos collectivités, ni dans l'Église. Que chacun de nous, peu importe son âge, s'efforce de devenir meilleur. Même si nous nous efforçons de faire preuve d'amour, de respect et de gentillesse, nous serons certainement blessés ou affligés par les mauvais choix d'autres personnes. Alors, que devons-nous faire? Nous suivons l'exhortation du Seigneur. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent. Ensuite, nous faisons tout notre possible pour vaincre l'adversité placée sur notre chemin. Nous nous efforçons d'endurer jusqu'à la fin en priant continuellement pour que la main du Seigneur change notre situation. Nous le remercions pour les personnes qu'il met sur notre route pour nous aider. Je suis touché par cet exemple tiré de l'histoire de l'Église. Pendant l'hiver de 1838, Joseph Smith et d'autres dirigeants de l'Église étaient captifs dans la prison de Liberty, tandis que dans l'État du Missouri, les saints des derniers jours étaient chassés de leur foyer. Ils étaient démunis, sans amis et souffraient terriblement du froid et de la pauvreté. Les habitants de Quincy, en Illinois, ont vu leur détresse et leur ont tendu la main avec compassion et amitié. Wendell Mace, un habitant de cette ville, a rapporté la plupart le moment où il a vu pour la première fois les saints sous des tentes de fortune le long du Mississippi. Certains avaient des draps étendus tels des petits abris contre le vent. Les enfants tremblaient devant un maigre feu que le vent éteignait. Les pauvres saints souffraient terriblement. Voyant leur détresse, les habitants de Quincy se sont unis pour leur venir en aide, certains les aidant même à traverser la rivière. Wendell Mace a raconté, « Les habitants ont donné libéralement, les marchands rivalisant pour savoir qui serait le plus généreux. Bientôt, les dons étaient rassemblés, de la farine, du porc, du sucre, des bottes, des chaussures et des vêtements, tout ce dont ces pauvres parias avaient tant besoin. » Il fallut peu de temps pour que le nombre des réfugiés dépasse celui des habitants de Quincy qui leur avaient ouvert leurs portes et avaient partagé avec eux les maigres provisions au prix d'un grand sacrifice. C'est uniquement grâce à la compassion et la générosité de ces personnes que de nombreux saints des derniers jours ont survécu à ce rude hiver. Ces anges sur terre ont ouvert leur cœur et leur foyer, offrant aux saints souffrants la nourriture et la chaleur salvatrice, et peut-être plus important encore, une main amicale. Bien que leur séjour à Quincy fût assez bref, les saints sont toujours restés reconnaissants envers leurs voisins aimés, dont la ville était désormais appelée la ville du refuge. Quand nous sommes sujets à l'adversité et aux afflictions suite à des critiques, des actes négatifs, voire malveillants, choisissons d'espérer dans le Christ. Cette espérance vient de son invitation à prendre, courage, car il nous guidera le long du chemin, et de sa promesse de consacrer nos afflictions à notre avantage. Finissons là où nous avons commencé. Nous parlions d'une chercheuse compatissante, répandant bonté et bienveillance, d'un résultat inattendu et de la guérison du cœur des animaux dont elle avait la charge. Tout simplement parce que c'était dans sa nature. En regardant à travers nos jumelles de l'Évangile, nous nous rendons compte que nous sommes, nous aussi, sous le regard vigilant d'un médecin compatissant, qui tend la main avec bonté et bienveillance. Le bon berger connaît chacun de nous par son nom et s'intéresse personnellement à nous. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a déclaré, « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et je donne ma vie pour mes brebis. » En ce week-end de Pâques, je trouve une paix durable dans la connaissance que l'Éternel est mon berger et qu'il connaît et veille attentivement sur chacun de nous. Quand nous affrontons les vents et les tempêtes de la vie, la maladie et les blessures, le Seigneur, notre berger, nous nourrit avec amour et bonté. Il guérit notre cœur et restaure notre âme. J'en témoigne et je témoigne de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Au nom sacré de Jésus-Christ, Amen.